Bonjour Dominique Voynet.
Bonjour.
Cofondatrice du mouvement Les Verts en 1984, ex-ministre de l'Environnement de Lionel Jospin et de l'Aménagement du Territoire. La révélation Jadot aux européennes avec 13,5% des voix sur la troisième marche du podium. C'est l'homme politique désormais le plus populaire selon le dernier baromètre d'Oxa pour France Inter. Qu'a-t-il réussi de mieux, de plus efficace que lors du précédent scrutin européen où les Verts avaient fait moins de 9%?
C'est un très beau résultat et je crois qu'on le doit vraiment largement à Yannick Jadot qu'il faut féliciter de son calme, de sa ténacité et de la façon dont il a su finalement rassurer à la fois ses colistiers et les électeurs quant à l'avenir de l'écologie politique. Moi, je ne vous cache pas que je suis d'abord soulagée de ce résultat. Il y a un an, rares étaient les commentateurs qui auraient parié sur un résultat à deux chiffres. On annonçait plutôt la mort des écologistes. Puis je crois qu'on est aussi dans la joie, tout simplement, et même un peu dans l'émotion quand on regarde les résultats chez les plus jeunes électeurs, ceux qui se sont mobilisés pour le climat, par exemple.
On parlera des jeunes, effectivement, tout à l'heure. Vous qui avez bien connu les atermoiements au sein des Verts, comment Yannick Jadot pourra-t-il développer son ni de gauche ni de droite dans un parti Europe Écologie Les Verts qui s'est surtout montré jusqu'ici ni de droite ni de droite?
Je pense que le monde a changé. Et avec lui, les écologistes, nous ne nous sentons pas la responsabilité de refonder la gauche, tout simplement parce que ce n'est pas le défi auquel on est confronté. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du mépris. Tout simplement une prise de conscience de Nicolas Hulot à Laurent Berger, des jeunes pour le climat aux agriculteurs qui tentent de préserver la biodiversité et de fournir des aliments de meilleure qualité. Il y a des millions de personnes pour lesquelles ces mots anciens sont assez vains et qui sont finalement les partenaires potentiels d'une transition écologique heureuse, sereine. Moi, j'ai toujours été de gauche, je me définis encore comme étant de gauche, mais je constate qu'en Allemagne, par exemple, c'est bien plus facile d'oser des alliances avec une chancelière conservatrice mais qui accueille des réfugiés et qui sort du nucléaire, que ça n'a été possible de le faire avec parfois une gauche étatiste, autoritaire, qui privilégiait le nucléaire, qui faisait des risettes aux chasseurs et qui se refusait à limiter la place de la voiture.
Est-ce que le parti Europe Écologie Les Verts est toujours ce parti que l'on dit pastèque, hein, c'est-à-dire vert à l'extérieur mais rouge à l'intérieur?
Je crois qu'on a pris conscience du fait qu'il y a une sorte de fossé entre les plus militants et les plus radicaux de nos adhérents pour lesquels l'écologie n'est jamais assez exigeante, et nos électeurs qui nous veulent d'abord concrets, pragmatiques, efficaces, qui attendent de nous des solutions concrètes.
Mais traditionnellement, en tout cas au sein du parti, c'est votre réputation, on débat et on débat encore, peut-être plus qu'ailleurs.
Mais vous préférez un parti où on ne débattrait
non,
pas?
Non, je dis simplement qu'on y débat beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu porter tort à certains moments au parti? Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de divergences? Et si oui, sur quoi porte-t-elle? Est-ce que c'est sur des idées, sur la stratégie, sur l'idéologie?
D'abord, on se dispute beaucoup plus quand on perd les élections. Mmh. On cherche des responsables. Regardez ce qui se passe aujourd'hui
chez les Républicains.
Dans les partis plus traditionnels. Ensuite, je pense que notre exigence, notre volonté de cohérence, de penser la transition d'une façon totale, globale, nous a parfois conduit à manquer de pragmatisme. Aujourd'hui, je crois qu'on est sorti de cette phase. Et j'ai bien noté que s'il y avait beaucoup de joie et de satisfaction devant ce beau résultat, il y avait aussi la mémoire de ce qui s'est passé autrefois. On a déjà vécu des grands soirs. On a déjà vécu des beaux moments.
En 2014, vous disiez que le parti manquait de maturité.
Oui, je l'ai dit.
Bah oui.
Et je pense qu'on n'a jamais fini ce travail de conquête de la maturité. Et il reste à poursuivre, bien sûr. Mais je crois que le message des électeurs, il est clair. Ils attendent de nous non pas des postures, mais de l'action. Et ils vont nous y aider.
Oui, mais avec qui? Parce qu'en fait, on voit bien que la politique, la stratégie de Yannick Jadot aujourd'hui, c'est de faire des Verts, en finir avec la force d'appoint, ce vote alternatif qu'étaient les Verts. Il va en faire un parti comme un impératif. Est-ce que l'écologie aujourd'hui est devenue cet impératif qui pourrait transcender les autres partis politiques?
Alors, je crois d'abord qu'il ne faut pas caricaturer Yannick Jadot. Quand Yannick Jadot dit « nous ne sommes ni de droite ni de gauche », il ne marque pas de mépris pour les forces politiques traditionnelles. Il dit simplement qu'un certain nombre d'options transcendent les actuels clivages politiques. Il n'est pas en train d'inventer une sorte d'ailleurs. Il tente de mettre l'écologie au centre. Quand je dis au centre, c'est au centre du débat politique, au centre des choix de société. Je ne parle pas d'une écologie centriste et molle. Ces choix, ils sont parfois radicaux. Et sur qui nous allons nous appuyer? D'abord sur les millions de personnes qui ont manifesté leur envie que ça change. Sur les personnes qui sont mobilisées contre le projet d'Europa City. Sur les personnes qui veulent manger sain et ne plus mettre en péril leur santé avec une alimentation transformée, suremballée, qui ne permet même pas aux paysans de vivre correctement.
Cela dit, Dominique Voynet, dans le passé, les bons score des Verts au scrutin européen ne s'est jamais traduit ultérieurement avec une dynamique pour les autres scrutins municipaux ou présidentiels.
Alors, je crois que nous sommes très lucides là-dessus. Un vote pro-européen clair, un vote de sensibilité écologiste ne signifie pas un vote d'adhésion à toutes les propositions du parti et ne signifie pas que des centaines de milliers de personnes vont demain prendre une carte chez les écologistes. En revanche, c'est un sérieux matelas sur lequel s'appuyer pour porter des propositions qui peuvent être transversales dans les partis politiques, qui peuvent les aider à évoluer. Et d'ailleurs, on le voit déjà. On le voit déjà dans une forme de récupération superficielle, mais on sait aussi qu'au sein pratiquement de tous les partis, il y a des personnes qui sont à peu près conscientes aujourd'hui, d'une part, qu'il faut changer, et d'autre part, qu'on ne peut plus opposer la justice sociale et la responsabilité écologique. Hier, c'était très commode de dire... Oui, bien sûr, il va falloir prendre en compte les questions écologiques, mais la priorité, c'est la question sociale. C'était notamment le cas à gauche. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas faire reculer les inégalités et mettre en place un mode de développement durable si on ne traite pas de façon simultanée ces deux questions. D'ailleurs, ce sont les mêmes causes qui expliquent à la fois l'épuisement des ressources naturelles, l'exploitation de la nature et l'exploitation des hommes.
Aujourd'hui, à Paris, les écologistes vont faire leur primaire pour désigner, choisir son ou sa candidate à la mairie de Paris l'an prochain. Est-ce que ce n'est pas un excès de confiance que d'aller seuls, les écologistes, à la bataille pour la mairie de Paris?
Moi, j'ai entendu ça quand je me suis présentée aux élections municipales à Montreuil. On l'a entendu aux élections européennes. On nous a sommé de faire l'union. On nous a rendu comptables et responsables de l'état de dégradation du débat politique à gauche. Et je pense que la démonstration est faite que les électeurs n'ont pas suivi ce genre de discussion. Cela dit, vous avez parfaitement raison. Nous avons le devoir de défendre nos convictions, mais nous devons le faire sans arrogance et avec une écoute renouvelée auprès de nos électeurs.
Je précise qu'aujourd'hui, à Paris, Europe Écologie Les Verts fait partie de la majorité municipale avec, aux côtés du Parti Socialiste. Est-ce que l'élan européen serait suffisant donc pour renverser le rapport de force à Paris?
Personne ne l'imagine. Personne ne
sauf qu'il
ne
y
nourrit.
Aura un candidat unique écologiste à la mairie de Paris. Donc
oui,
faut renverser la vapeur.
Mais
quand même.
Convenez que cette stratégie a été arrêtée avant même le résultat des européennes. Donc c'est pas lié. On est fiers d'envoyer à Bruxelles 12 et de même 13 députés européens qui vont se battre. Qui vont se battre pour changer les équilibres, qui vont se battre pour changer les priorités de la Commission européenne et influencer autant que possible les États. Et puis, ville par ville, à Nantes, à Rennes, à Besançon et ailleurs, les écologistes seront présents pour faire valoir une autre façon de faire de la politique, y compris d'ailleurs dans les pratiques démocratiques.
Dominique Voynet, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont compris que leur avenir est évidemment lié à celui de la planète, et les jeunes notamment. Pour d'autres, il a fallu un déclic. Alors pour vous, quand vous étiez médecin anesthésiste à Dole, quel a été le déclic? Et est-ce que vous pensez, là, ça c'est une double question, que pour Emmanuel Macron, le déclic il est profond à l'heure actuelle, le déclic écologiste, ou qu'il est simplement écologique, ou qu'il est simplement électoral?
Pour moi, ce qui a été prédominant dans mon engagement, ça a été la prise de conscience du fait que des millions, des centaines de millions, des milliards même de personnes ne mangeaient pas à leur faim, vivaient dans la misère. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a pratiquement plus d'un milliard de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Évidemment, c'est générateur de tensions, de conflits, de guerres et de grands désordres. Aujourd'hui, je pense que c'est effectivement l'urgence climatique qui s'est imposée pour beaucoup, qui ont peut-être une sensibilité qui est en train de grandir, mais qui n'ont pas encore les clés pour agir. On ne peut pas préparer la transition écologique en s'appuyant sur les chasseurs. Vous savez qu'on va pouvoir, qu'on va cette année chasser le chevreuil au 1er juin. Franchement, est-ce que c'est raisonnable ? Il y a des gens qui se promènent en forêt en été et qui attendent autre chose du gouvernement. Mais on ne pourra pas non plus faire l'économie d'une réflexion sur nos choix énergétiques, sur nos choix de déplacement et une politique qui tiendrait un discours de façade sur le climat, mais qui continuerait à encourager l'usage exclusif de la voiture et à renoncer à la modernisation des transports en commun, une politique qui reculerait encore la transition vers une agriculture plus durable, ne serait pas à la hauteur des défis.
On voit bien aujourd'hui que chaque parti tente de s'approprier les arguments écologistes. Comment Emmanuel Macron peut-il verdir l'acte 2 de son mandat qui s'ouvre sans être taxé de greenwashing, c'est-à-dire de laver plus vert par opportunisme ?
La liberté du marché ne va pas suffire. La loi de l'offre et de la demande ne va pas suffire. Même si on peut convenir que si les consommateurs arrêtent d'acheter des produits débiles, ils ne se fabriqueront plus. On a comme ce pouvoir, évidemment. Mais je pense que le moment est venu de poser des actions fortes. L'énergie la moins chère, la moins polluante, la moins dangereuse, c'est celle qu'on n'a pas consommée. L'obstination dans la construction de l'EPR est incompréhensible et d'ailleurs incomprise dans toute l'Europe. On doit offrir des alternatives aux déplacements en voiture, notamment pour les personnes qui, pour des raisons financières, contribuent à l'étalement urbain et habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail ou de leur lieu de formation. C'est en étant le plus concret, le plus pragmatique possible, en mettant en place les budgets qui vont permettre de financer la transition, qu'Emmanuel Macron nous convaincra qu'il n'est pas seulement dans le greenwashing.
Parmi les autres mesures d'Emmanuel Macron, c'est la nouvelle version du projet de réforme des institutions qui sera présentée en juillet en Conseil des ministres avec l'écologie inscrite dans l'article 1er de la Constitution. La République française agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. C'est un geste fort ou de la cosmétique ?
C'est une affirmation de principe qui ne va pas changer grand-chose au quotidien, mais qui montre qu'un tout premier pas vient peut-être d'être acté. C'est une reconnaissance, en quelque sorte, du vice à la vertu.
Des 45 ans de politique, d'écologie politique aussi.
Oui, c'est vrai, ça a été dur. Moi, j'ai vécu la période du déni, ça n'existe pas. J'ai vécu la période de la dérision. Vous nous fatiguez, vous ne pensez pas qu'on va vivre dans des cavernes en rongeant des carottes. Et de façon constante, la sous-estimation de l'ampleur des changements qui sont opérés. Mais en même temps, la délégation à la prospective du Sénat vient d'adopter un rapport tout à fait étonnant sur l'adaptation au changement climatique. Il ne parle pas de réforme à la marge, il parle de mutation de choix de société. Ils disent il va falloir faire en sorte qu'on gère l'inévitable, mais aussi qu'on évite l'ingérable. C'est une formule, bien sûr, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est au pied du mur et le Sénat qui n'est pas composé d'écologistes, qui n'est pas en pointe sur les questions de société d'habitude, montre ici l'exemple.
Les parlementaires écologistes et les ministres écologistes confrontés au lobby, Nicolas Hulot a quitté le gouvernement Macron en faisant le constat de l'influence supérieure des lobbies, il en a tiré les conséquences. Vous aussi, Dominique Voynet, ex-ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du gouvernement Jospin, vous aviez subi ces lobbies, c'est ça qui vous avait fait quitter le gouvernement ?
Non, j'ai été pendant 4 ans ministre écologiste dans un gouvernement qui ne l'était pas, je l'ai dit. J'ai essayé d'utiliser toutes les marges de manœuvre
pour aller plus loin. Mais vous avez craqué sur la réforme de la politique de l'eau, non, c'est ça ?
Je n'ai pas craqué, pas mon genre de craquer.
Non mais craquer, je veux dire, vous avez démissionné.
Vous êtes partie en 2001. Je suis partie quand j'ai constaté que l'élan initial s'était épuisé et que Lionel Jospin écoutait davantage Jean-Pierre Chevènement et Jean-Claude Guessot que ses partenaires écologistes.
Donc les ministres des Transports.
Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps, on a perdu peut-être 20 ans.
Et ça n'a pas changé, puisque Nicolas Hulot a démissionné pour les mêmes raisons.
C'est vrai, mais je pense que aujourd'hui, il est possible d'aller plus loin en s'appuyant notamment sur ce qui bouge, sur ce qui fermente dans la société. Les alternatives sont prêtes, les citoyens sont là. Les politiques sont en train de le découvrir. Il y a encore des gens qui doutent aussi, qui se disent « Mais moi, j'arrive pas à m'en sortir, je rame, je passe des heures dans les transports en commun, je travaille à temps partiel sur des sites éloignés les uns des autres. Comment faire ? Comment faire ? Comment je peux prendre ma part ?» Et évidemment, il faudra rassurer ces gens-là en priorité.
Et comment l'écologie peut devenir compatible avec ce capitalisme de croissance qui n'en finit pas ?
Alors, dire qu'on accepte l'économie de marché, Ça veut dire qu'on refuse.
Ce que dit Yannick Jadot.
Ça veut dire qu'on refuse l'économie administrée. Elle l'a longtemps été. Sur les choix énergétiques, elle l'est encore, hein, par exemple. C'est dire aussi que on souhaite organiser, réguler le marché. On peut être pour l'économie de marché et anticapitaliste, on peut être pour l'économie de marché et anti-libérale. Moi, je combats les excès de la finance, je combats les excès de la mondialisation qui aujourd'hui n'est pas régulée du tout, contrairement à ce qu'on peut dire, et je combats évidemment l'attitude des GAFA qui font des profits formidables mais qui ne contribuent pas à la protection sociale et qui ne paient pas ou peu d'impôts en France.
C'est ce que disait déjà André Gors, qui fut le pionnier de l'écologie politique. Il avait théorisé ça dans les années 70, notamment écologie, liberté, j'imagine, en 77. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait toujours pas comment faire autrement qu'avec la croissance.
Mais je vous donne un exemple concret. Ça dépend du contenu de la croissance. Aujourd'hui, il y a des communes à travers la France qui se sont organisées pour fournir dans les cantines des menus moins carnés, avec plus de légumineuses, des menus plus équilibrés, avec des produits moins transformés, des menus locaux, en faisant en sorte qu'une agriculture vivante puisse subsister sur les territoires. Est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on les laisse se dépatouiller avec des règles de plus en plus compliquées? Donc le logiciel qui doit nous guider, c'est effectivement partout la sagesse et la responsabilité écologique, partout le souci de réduire les inégalités.
Sauf que vous le savez très bien, Dominique Voynet, la France seule ne pourra rien faire. L'Allemagne peut-être, avec les Verts, qui sont arrivés en deuxième position aux dernières européennes. Au final, les écologistes, d'ailleurs, en Europe, ils vont représenter 10% des sièges au Parlement européen. Vous qui avez été députée européenne, 10% d'écologistes à Strasbourg, ça pèse quoi? Ça influence sur quoi?
Alors, ça aide à construire ou à défaire des majorités. Mais au-delà du poids arithmétique, ça aide surtout à poser des questions qui ne seraient jamais posées s'il n'était pas là. Ça aide aussi à empêcher beaucoup de bêtises. Il y a aussi la présence des écologistes dans des majorités gouvernementales. Ça peut aider. Quand j'étais ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, j'avais les pires difficultés à faire entendre au gouvernement notre réserve et même notre opposition sur les OGM. Mais au niveau européen, on a réussi à freiner l'arrivée des OGM, à l'empêcher l'arrivée des OGM. Il y avait à l'époque 5 ministres écologistes dans les gouvernements de l'Union.
Dominique Voynet, comment interprétez-vous le non-soutien officiel de Nicolas Hulot en faveur de Yannick Jadot pour les européennes? Ils sont toujours fâchés, ces deux-là?
Alors, ce n'est pas une question personnelle. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai été candidate aux élections présidentielles. Nicolas Hulot, qui était mon ami, n'avait pas pris position officiellement pour la liste des Verts. Je pense qu'il est très soucieux de la liberté de sa parole, qu'il est très soucieux de la cohésion de son propre raisonnement et de l'intégrité de son image, et que, échaudé par son engagement auprès de La République En Marche, il veut simplement rester un tout petit peu à l'écart.
Et c'est toujours votre
pour garder cette liberté de parole.
C'est toujours votre
ami. Je le vois moins. Je le vois moins, mais c'est parce que je me suis aussi retirée de la politique active. Je ne suis plus élue, j'apporte tout mon soutien à mon parti. Je regrette un petit peu que tant de temps ait été perdu.
Un mot sur la communication politique, hein. Ça passe souvent par l'hebdomadaire Paris Match. Yannick Jadot l'a encore prouvé cette semaine, en couple, comme l'avait fait avant Hollande ou les Sarkozy en leur temps. Pleine page photo sur le couple Jadot cette semaine. Vous comprenez ce passage obligé ou est-ce que c'est une faute?
Ce n'est pas une faute, c'est quelque chose peut-être d'inévitable pour atterrir, pour revenir à une sorte de régularité. Je trouve que les critiques qui sont faites à Yannick Jadot et à sa compagne sont totalement déplacées, parce que Isabelle Saporta avait depuis longtemps...
Elle vient de démissionner d'RTL où elle a été chroniqueuse.
Voilà, des convictions connues, des convictions affirmées. Elle n'a jamais été en situation d'interviewer son compagnon ou de prendre position pendant la campagne des européennes pour la liste Europe Écologie Les Verts. Donc je trouve qu'il y a une sacrée dose de misogynie dans les critiques qui lui sont faites.
Dominique Voynet, parole de femme ce matin sur l'antenne de France Inter et parole écologiste. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h38. Merci.